Vatican News, le journal, il est 8h30.
Le poumon vert de la planète est en flammes. Des incendies d'une ampleur exceptionnelle ravagent actuellement la forêt amazonienne. Les dégâts restent difficiles à évaluer. La progression est en revanche visible. Les évêques d'Amérique latine sont inquiets. Ils demandent l'action rapide des gouvernements et de la communauté internationale. Défilé des dirigeants de ce monde à l'Elysée avant l'ouverture du G7 à Biarritz ce matin, le chef de la diplomatie iranienne, hier Boris Johnson, le premier ministre britannique. Sur le Brexit, le ton semblait plus conciliant comme la veille en Allemagne. On y revient dans ce journal. Au Proche-Orient, l'autorité palestinienne a finalement accepté et reçu 512 millions d'euros que lui devait Israël. Une enveloppe qui va lui permettre de desserrer l'étau alors que les mesures d'austérité se multipliaient, que l'avenir même de son gouvernement semblait menacé. Et puis enfin, direction l'Arctique dans notre dossier. Mais pourquoi donc le président américain Donald Trump souhaite-t-il acheter cet immense territoire à 85% recouvert de glace ?
Le journal, Marie Duhamel.
Bonjour à tous. L'Amazonie, le poumon vert de la planète, part en fumée. La plus vaste forêt tropicale du monde, un trésor de biodiversité peuplé de 420 tribus indigènes, est actuellement en proie aux flammes. On ignore combien de foyers sont actifs, mais il y en aurait 2500 de plus qui se seraient déclarés en 48 heures dans les états d'Amazonas et de Rondônia, distants pourtant de plus de 2700 kilomètres l'un de l'autre. L'ampleur du drame est telle que la fumée est visible depuis l'espace. Comment en est-on arrivé là ? La sécheresse, la déforestation, ONG et gouvernement s'accusent en tout cas mutuellement, Adélaïde Patrignani.
En effet Marie, pour le moment au Brésil, la discorde est totale entre les deux camps. Le président Jair Bolsonaro a expliqué qu'il pourrait aussi bien accuser les indigènes, les martiens ou les grands propriétaires terriens. Mais les plus forts soupçons pèsent sur les ONG, a-t-il ajouté. D'après lui, ces organisations perdent de l'argent, elles n'ont plus d'emploi et elles essaient de le renverser. En réaction, 118 ONG se sont élevées contre l'irresponsabilité présidentielle dans une tribune, accusant Jair Bolsonaro de manipuler l'opinion publique. Dans cette tempête, un message des évêques d'Amérique latine a été publié hier. Les prélats expriment leurs préoccupations face à la gravité de cette tragédie. Une tragédie qui n'a pas seulement un impact local, ni même régional, mais des proportions planétaires, souligne-t-il. Et de résumer, si l'Amazonie souffre, le monde souffre. Les évêques interpelle les gouvernements, en particulier le Brésil et la Bolivie, mais aussi les Nations Unies et la communauté internationale. À tous, ils demandent de prendre des mesures sérieuses pour sauver le poumon de la planète. L'ONU a elle aussi dit son inquiétude par la voix de son secrétaire général Antonio Guterres. L'Amazonie doit être protégée, a-t-il tweeté. Avec cette mise en garde, en pleine crise climatique mondiale, nous ne pouvons accepter davantage de dégâts sur une source majeure d'oxygène et de biodiversité.
Merci Adélaïde. Et puis sur Twitter, toujours, le président français a promis hier de faire des incendies en Amazonie, un des sujets du G7 qui s'ouvrira demain à Biarritz sans le président Bolsonaro, qui n'en est pas membre, le président brésilien qui dénonce la mentalité colonialiste de son homologue français. Le G7 sans le Brésil, mais en présence du président américain, alors que les marchés s'inquiètent pour l'économie des États-Unis. Le marché de l'emploi, la croissance vont bien sur place, mais pour la troisième fois en 8 jours, la courbe des taux d'intérêt sur les bons du Trésor américain s'est inversée, ce qui est le signe avant-coureur d'une récession dans les 12 à 18 mois. Autant vous dire que la prise de parole du chef de la Banque centrale américaine ce vendredi est très attendue. Nommé par Donald Trump début 2018, Jerome Powell est rapidement tombé en défaveur. Le président américain l'accuse de freiner l'économie. Il devra aujourd'hui lui démontrer le contraire. Les chefs des plus grandes puissances de la planète se retrouveront donc demain dans le sud-ouest de la France, à la veille du G7. Un balai diplomatique à l'Elysée. Ce matin, le président français reçoit le chef de la diplomatie iranienne. Paris va faire des propositions pour que Téhéran respecte l'accord de 2015 sur son programme nucléaire. Paris qui se rêve intermédiaire entre l'Iran et les États-Unis. À partir de demain, donc, les travaux de 7 chefs d'État seront suivis par 2000 journalistes accrédités. Ces derniers n'auront pas la possibilité toutefois d'interroger à Biarritz les 32 associations du réseau Action Climat, des ONG telles que le Secours catholique, Oxfam ou Greenpeace. Elles boycottent la rencontre. Elles dénoncent la décision de l'Élysée de limiter le nombre d'accréditations des ONG afin de les tenir, disent-elles, à l'écart. Peu importe les boiseries, Boris Johnson avait littéralement les pieds sur la table hier à l'Élysée lors de sa rencontre avec Emmanuel Macron. La France après l'Allemagne, le Premier ministre britannique a achevé sa mini-tournée pour parler du Brexit. Sera-t-il dur? Un accord saura-t-il être trouvé? Il semble que la situation se soit en tout cas détendue à Bruxelles, Lex-Milota.
« Je veux un accord », a déclaré le Premier ministre britannique à son arrivée dans la cour de l'Élysée. Boris Johnson a précisé qu'il avait été grandement encouragé par sa rencontre avec la chancelière allemande la veille. À ses côtés, le président français s'est montré plus prudent, mais s'est déclaré confiant qu'une solution puisse être trouvée. Emmanuel Macron a rappelé que certaines conditions étaient incontournables. Le mécanisme dit de filet de sécurité ou backstop. Il s'agit du fameux dispositif sur la frontière irlandaise, point de blocage entre les deux parties. L'UE veut éviter un nouveau conflit entre les deux Irlandes. Pour Londres, le filet de sécurité porte atteinte à la souveraineté de l'État britannique et l'empêcherait de mener une politique commerciale indépendante des règles de l'Union. Boris Johnson s'est voulu rassurant. Les solutions techniques sont aisément disponibles, a-t-il déclaré, sans toutefois les dévoiler. Angela Merkel a pour sa part précisé au même moment depuis La Haye qu'un accord était possible jusqu'à la dernière minute, jusqu'au 31 octobre. À Bruxelles, Lax-Milota pour Radio Vatican.
En Italie, au terme de 2 jours de consultation, le président de la République, Sergio Mattarella, donne 4 jours supplémentaires jusque mardi prochain aux formations politiques pour dégager une majorité parlementaire afin d'éviter des élections. Et puis, on reste en Italie où le numéro 2 de la secrétaire d'État, Mgr Paul Richard Gallagher, s'est exprimé hier lors du meeting de Rimini. Dans une interview accordée à Radio Vatican, le secrétaire pour les relations avec les États a estimé que le patriotisme est une valeur positive, mais qui doit se vivre en lien avec l'ouverture aux autres. Pour lui, la fragmentation qui traverse l'Europe politique aujourd'hui est en lien avec la fragmentation de l'existence humaine. Plus de détails sur notre site internet. Dans les Balkans, une scène totalement inattendue. Hier au Kosovo, pas de tractation politique là pour éviter des élections. Celle-ci devrait avoir lieu à l'automne. En effet, le Parlement a voté sa propre dissolution. Correspondance de Laurent Rouy.
La dissolution a été votée par 88 députés sur un total théorique de 120. Le gouvernement de coalition des partis des anciens chefs de guerre de l'UCK cesse d'exister, tout comme sa majorité. Le président Hashim Thaçi va devoir convoquer des élections législatives anticipées. On parle d'un scrutin pour le 6 octobre. À l'origine de la crise, le premier ministre Ramush Haradinaj, suspecté de crimes de guerre, qui avait démissionné le 19 juillet. Il a depuis été entendu par la justice internationale, mais il est reparti libre du tribunal. Haradinaj a d'ores et déjà déclaré qu'il se présenterait aux élections si ses ennuis judiciaires ne l'en empêchent pas. Haradinaj avait considérablement durci le ton contre la Serbie et instauré une taxe douanière de 100% sur les importations serbes. Il est considéré par la communauté internationale comme le responsable de l'arrêt des négociations sur le statut final mené à Bruxelles. Il espère capitaliser dans les urnes sur le sentiment anti-serbe largement répandu au Kosovo en faisant oublier l'inefficacité de son gouvernement. Laurent Rouy, Belgrade, Vatican News.
On vient de l'apprendre en Russie, après 30 jours de détention pour des appels à manifester, l'opposant Alexei Navalny a été libéré ce matin. Au Proche-Orient, Israël a finalement débloqué hier une partie des sommes dues à l'autorité palestinienne qu'il refusait de transférer depuis le mois de février. Le gouvernement palestinien s'était retrouvé dans une crise financière sans précédent. Valérie Ferron.
Ces 512 millions d'euros correspondent à une partie des sommes provenant de prélèvements de taxes douanières par Israël pour le compte de l'autorité nationale palestinienne et dont le gouvernement de Benjamin Netanyahou a suspendu une partie du transfert depuis février. La puissance occupante voulait ainsi sanctionner l'autorité nationale qui refuse de cesser son aide aux familles de prisonniers et de personnes tuées par les soldats et les colons israéliens. En réaction, le président Abbas avait depuis lors refusé de percevoir la totalité des sommes dues, ce qui a plongé le gouvernement palestinien dans une crise financière sans précédent. Le déblocage de ces fonds va permettre en premier lieu de payer une partie des salaires des fonctionnaires à hauteur de 60% pour le mois d'août, ainsi que des arriérés. Le ministre des Affaires civiles a tenu cependant à souligner que si ce transfert d'argent est positif, il ne résout en rien le désaccord sur l'allocation d'aide aux familles de prisonniers et de personnes tuées, dénoncées par Israël comme une aide aux terroristes. Jérusalem, Valérie Ferron, Vatican News.
Et enfin, ouverture d'un couloir humanitaire en Syrie. Hier, le régime qui bombarde depuis le mois d'avril les zones qui restent sous contrôle rebelle ou djihadiste dans le nord-ouest du pays ont récemment progressé sur le terrain, assiégeant des villages situés entre le sud d'Idleb et le nord de Hama. C'est à ces villageois que les troupes loyales à Damas sont proposées de fuir. Il n'y a pas de crise avec les États-Unis. À Copenhague, au Danemark, le gouvernement joue l'apaisement après l'annulation pure et simple de la visite de Donald Trump dans le pays. Elle était prévue dans 2 semaines, les 2 et 3 septembre prochains. Le président américain a reporté son déplacement puisque la première ministre danoise ne voit, dit-il, aucun intérêt à discuter avec lui de l'achat du Groenland. Car Donald Trump, en effet, a formulé la semaine dernière le souhait d'acheter cet immense territoire arctique, bien qu'il ne soit nullement en vente. Hélène de Potter est maître de conférence en droit public à l'Université de Franche-Comté, l'auteur de l'emprise des États côtiers sur l'Arctique paru en 2019. Elle nous explique les raisons de cet intérêt américain.
L'Arctique est une région qui va être amenée à se développer considérablement. En raison du réchauffement climatique et de la disparition des glaces, la zone va devenir de plus en plus accessible. Déjà, on observe une augmentation significative du tourisme. L'industrie va se développer, les ports vont se développer, les voies de circulation vont être libérées des glaces, donc les navires vont pouvoir passer. Ça va permettre de raccourcir les chemins pour rejoindre certains continents, donc c'est une voie de circulation beaucoup plus directe. Il y a des ressources minérales non négligeables et posséder un territoire dans cette région, ça signifie avoir des droits souverains sur le plateau continental qui se prolonge sous la mer du territoire. On a aussi des droits dans la zone économique exclusive, des droits en matière de pêche et d'exploitation des ressources économiques.
On voit bien aussi que l'Amérique de Donald Trump cherche à s'affirmer. Dans cette perspective, est-ce que le souhait d'acheter le Groenland est également stratégique ?
Certes, la Russie déploie des militaires, il y a des mouvements de troupes à la frontière avec la Norvège. La Russie a ouvert une base récemment en Arctique. Donc, il y a une présence militaire en Arctique, mais en dépit de ce qu'on peut croire, c'est avant tout une zone de très bonne coopération entre les États du cercle arctique qui veulent pouvoir exploiter au maximum cette région et de façon pacifique.
Est-ce que vous avez un exemple de cette coopération ?
Très récemment, donc à l'automne 2018, les États, donc ils sont au nombre de 8, et l'Union européenne se sont engagés à ne pas recourir à la pêche commerciale tant qu'ils n'ont pas de données scientifiques plus précises. Vous voyez, donc c'est pas du tout l'idée première arrivée, premier servi. Et il arrive que les États du Conseil de l'Arctique adoptent ensemble des traités contraignants. Le dernier en date, 2017, c'est un accord sur la coopération scientifique entre eux.
Pour l'instant, du coup, une lutte pour le contrôle de ce territoire prometteur convoité n'est pas d'actualité.
La convoitise, elle est difficile dans la mesure où les règles, elles sont claires. L'Arctique n'est pas un espace qui échappe au droit. Tous les espaces dans cette région-là appartiennent à un État. Alors certes, pour certaines questions, les États ne sont pas d'accord sur l'application, l'interprétation des règles de droit. Par exemple, les détroits au nord de la Russie. La Russie prétend que ce sont ses eaux intérieures. D'autres États, comme je crois les États-Unis, disent non, c'est la mer territoriale russe et donc il y a un libre passage au profit des autres États. Donc c'est vrai qu'à terme, il va peut-être falloir soit que les États se mettent d'accord, soit qu'éventuellement un tribunal soit saisi, mais ça c'est très compliqué, il faut que le tribunal soit compétent, il faut que les États acceptent de soumettre le différend au tribunal, pour l'instant c'est pas le cas.
Et est-ce qu'il va falloir aussi clarifier la question des frontières en raison de la fonte des glaces ?
Les problèmes de frontières en Arctique sont dans l'ensemble tous résolus. Là où il y a encore des choses à faire, c'est sur la délimitation extérieure du plateau continental des États, donc sous la mer. Le jour où la glace fond, on peut accéder au plateau continental et donc ça devient très intéressant. Et les États peuvent revendiquer donc un plateau continental, mais il y a des limites à respecter. Et pour ça, il faut s'adresser à une commission créée par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Cette commission reçoit les demandes des États et ensuite elle émet un avis. Et les États délimitent définitivement leur plateau continental sur la base de l'avis. Tous les États arctiques l'ont fait déjà ou sont en train de faire. L'exception, c'est les États-Unis, parce que les États-Unis ne sont pas partis à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Donc, si vous n'êtes pas partie à une convention, est-ce que vous avez le droit de vous adresser à un organe créé par la convention? Ça, c'est une question qui se pose et qui n'est pas résolue.
Hélène de Potter, maître de conférence en droit public à l'Université de Franche-Comté, auteur de l'emprise des États côtiers sur l'Arctique, était ce matin l'invité de Radio Vatican. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité, de votre écoute attentive. L'actualité du monde et de l'Église dans le monde revient à 13h. Excellente journée.